Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux tiers-lieux, ces territoires d'avenir. Depuis plusieurs années, les tiers-lieux se développent partout en France. Alors, qu'est-ce qu'un tiers-lieu ? Les tiers-lieux, ce sont ces espaces de travail partagés et collaboratifs qui se déclinent sous différentes formes. Le coworking, les fab labs, ces laboratoires de fabrication, les ateliers partagés, les ressourceries. Le Covid a d'ailleurs accéléré ces changements. Quel impact sur notre façon de travailler, nos modes de travail, nos modes de vie et surtout quel impact sur les territoires ? Pour en parler, qui de mieux que Patrick Lévivetz, président de l'association France Tiers-Lieux.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Patrick Lévivetz.
Bonjour.
Alors peut-être déjà pourriez-vous nous présenter rapidement l'association France Tiers-Lieux.
L'association France Tiers-Lieux a été créée en 2018, suite à mon rapport, 2019 pardon, suite au rapport que j'avais remis au ministre Julien de Normandie pour structurer et professionnaliser la filière des tiers-lieux en France, laquelle était mal connue, lesquels tiers-lieux n'étaient pas structurés en réseau, mais se développaient au fil du temps sans organisation idoine.
Alors, vous avez remis le 27 août dernier, donc tout récemment, un autre rapport au Premier ministre Jean Castex, le rapport « Nos territoires en action, dans les tiers-lieux se fabrique notre avenir ». Ces tiers-lieux, j'expliquais, c'est des lieux de coworking, de fab lab, ce sont des lieux ouverts à tous. Alors, on en comptait 1800 dans la France entière en 2018, désormais ils sont au nombre de 2500, c'est ce que vous avez écrit effectivement dans votre rapport, dans la France entière. Et d'après votre rapport, on devrait atteindre les 3500 tiers-lieux en 2022. Comment est-ce qu'on explique ce succès ?
C'est assez simple. Nous sommes dans un monde, dans un pays, comme d'ailleurs tous les pays du monde, de transition. Toutes les transitions sont à l'œuvre, transition du travail, la transition écologique, évidemment la transformation numérique est tout à fait considérable. Transition aussi des métiers de la main, du fer, qui sont en train de revenir au goût du jour. Tout cela conduit à l'émergence d'une autre organisation du travail.
Et tout ça se passe dans ces tiers-lieux. Alors justement, pour ceux qui ne sont pas familiers au terme de tiers-lieux, est-ce que vous pourriez nous décrire le public qui apprécie ces lieux ? La tranche d'âge, la catégorie socio-professionnelle ?
Alors, évidemment, en priorité, ceux qui travaillent, parce qu'ils rejoignent des lieux hybrides où ils peuvent à la fois travailler à distance, le télétravail, travailler dans des ateliers partagés, donc fabriquer des objets, donc c'est le travail de la main, des manufactures d'opportunité, mais aussi tout un certain nombre d'activités associatives, d'inclusion numérique, d'inclusion sociale, de formation, qui font de ces tiers-lieux des lieux hybrides et des lieux tout à fait nouveaux dans la façon dont ils sont gérés, dans la manière dont ils conduisent à de l'innovation et de la créativité.
Ce sont des lieux de création, ça c'est important de le dire. De ces lieux naissent de nombreux projets. Est-ce qu'on peut les quantifier ces projets et peut-être nous donner un exemple concret d'actions qui sont nées justement de ces tiers-lieux ?
Il y en a évidemment énormément. Je vais vous donner un exemple très simple. Un des premiers tiers-lieux qui a existé dans le Perche, qui avait mis en lien un artisan du bois, un bûcheron, un artisan du bois, peu importe, et un designer. Et ils ont créé une entreprise de lampes qui s'est très bien vendue et qui marche très bien. On hybride des métiers, on prend des métiers différents, on se rencontre, on réfléchit, on se dit on pourrait faire quelque chose et puis on le fait. Et ça, c'est très concret. Ça répond à des usages, ça répond à des besoins, ça répond aussi à des territoires souvent qui ont été abandonnés, désindustrialisés et qui ont décidé, entre guillemets, de ne plus mourir. C'est d'ailleurs l'expression utilisée par un certain nombre d'entre eux quand je les ai rencontrés.
Oui, et du coup, vous le dites très bien dans votre rapport, et là je vous cite, ce sont des laboratoires de redynamisation territoriale, d'expérimentation, de nouvelles façons de travailler ensemble. Donc on a le sentiment qu'effectivement, finalement, ça permet de décloisonner, j'allais dire, les relations et de repermettre la communication entre différents métiers, entre le privé, les acteurs locaux, les collectivités.
Oui, c'est en réalité, c'est un formidable. Les tiers-lieux, d'abord, ils sont d'origine citoyenne, souvent.
Oui.
Mais ça peut être aussi des élus qui sont des citoyens engagés, qui ont pris quelques fonctions, que ce n'est pas de la profession, de la politique, et qui bâtissent entre eux des réponses à des besoins locaux. Et donc, on fabrique d'abord des objets, des sujets, des projets qui sont transversaux, qui mettent autour de la même table des gens de l'économie, du social, des collectivités territoriales, et qui recréent une dynamique qui permet tout simplement de redonner sens et goût à l'action collective.
Ouais. C'est un vrai mouvement sociétal également. Vous avez de nombreuses familles, on l'a vu, hein, suite au Covid, qui ont fait le choix de quitter les métropoles pour aller dans des zones plus rurales, périurbaines. Et finalement, ces tiers-lieux leur permet finalement d'exercer une activité partout en fait, pas forcément dans la capitale ou dans les grandes villes.
Bon, c'est un mouvement, nous on pense et on l'a exprimé, c'est un mouvement sociétal puissant.
Oui.
Probablement le phénomène de société le plus important qu'on ait connu dans notre pays depuis l'émergence du mouvement d'éducation populaire dans les années 1960. Des maisons des jeunes et de la culture qui avaient été créées top-down cette fois, parce que l'État était top-down et c'était comme ça que ça fonctionnait au moment de l'émergence de la société des loisirs, qui avait permis à des gamins d'avoir des activités de vacances quand ils n'avaient pas les moyens de partir. Et bien cette société du numérique qui transforme tous les usages, qui bouleverse tous les modes de fonctionnement, toutes les organisations individuelles et collectives, du travail mais aussi de vie, sont à l'origine de ce mouvement et portent une autre façon de faire, une autre façon de travailler et probablement une autre manière de vivre demain.
Ouais. Une autre manière. À quoi ressemblera justement, à votre avis, le monde du notre façon de travailler demain, quand on voit justement tout est bouleversé, vous le disiez à l'instant, par le numérique.
Écoutez, chaque fois que ce sera possible, les jeunes générations l'expriment bien dans les enquêtes, chaque fois que ce sera possible, le plus proche de là où on habite, là où on est, autant que faire se peut. Et ça, c'est une révolution qu'on voit venir de loin. Je préside la Fondation Travailler Autrement et on a fait des ententes, des études depuis très longtemps sur le sujet. On voyait monter le phénomène, mais évidemment, le Covid a cristallisé ce qui était sous-jacent à notre société, qui est au demeurant du bon sens. Quand on passe une heure et demie de transport en journée, et à un moment donné, on se dit, mais à quoi bon ? Et donc, quand les usages, quand les infrastructures vous permettent en partie d'y travailler, vous le ferez. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, y compris sur la réindustrialisation qui est possible, vous verrez qu'elle se refera dans les villes moyennes ou dans les petites villes, parce que c'est là où, probablement dans le futur, les gens auront envie de revivre proche de leur boulot et le moins de transport possible pour une meilleure utilisation du temps et un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle.
Oui, une meilleure qualité de vie, hein, tout simplement.
Absolument.
L'État s'engage aux côtés des tiers-lieux. Hein, ils ont compris donc, l'intérêt et l'importance de ces lieux en matière de production, de créativité, de redynamisation aussi hein, territoriale, en développant les 100 manufactures de proximité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est, ces manufactures de proximité ?
Oui, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur, qu'on a proposé avec France Tiers-Lieux au gouvernement. C'est assez simple. Notre pays vit dans 40% de son territoire, hein, c'est-à-dire en dehors des grandes villes et des grandes métropoles, beaucoup avec les artisans et les indépendants pour garder ce qu'est la vitalité économique. Et un artisan, un indépendant, ça n'a pas les moyens d'acheter une machine à outils,
non,
ça n'a pas la façon d'un établi, enfin une machine puissante pour couper du bois, du fer, du métal, pour construire, et c'est vrai, pour faire son job.
Il y a trop de frais, trop de frais de démarrage parfois.
Beaucoup trop de frais de démarrage. Et mutualiser ces frais-là permet quasiment à chacun de venir imaginer, développer, parce que évidemment les coûts sont infiniment moindres. Et donc ce que vous avez pour le télétravail, pour le travail avec des ordinateurs sur une table, ce qui fait les espaces de coworking, ben, les manufacturiers de proximité le font pour les hommes et les femmes qui utilisent leurs mains avec talent et qui sont capables de livrer des produits et des objets réalisés avec la main. Et c'est un enjeu majeur de notre société que de remettre les métiers d'artisanat, les métiers évidemment de la main, au goût du jour, tant on en a besoin et tant les métiers sont en train de disparaître.
Et on sait à quel point c'est important, effectivement, la transmission dans ces métiers-là. Les plus grosses entreprises qui en ont les moyens peuvent former en interne, et pour les plus petits, c'est vrai que c'est très compliqué. Les manufactures sont, disposées un petit peu partout en France, elles sont spécialisées en fonction des savoir-faire de la région.
Bah, on a lancé l'idée d'en mettre. Nous, on voulait en faire 500. Le gouvernement a fait une première étape à 100. On aura un appel à manifestation d'intérêt, Et chaque territoire qui répondra, fabriquera, façonnera la manufacture, ou développera une manufacture existante en fonction de son besoin territorial. On ne décrète pas du haut ce dont le territoire a besoin. C'est le territoire qui exprime son besoin et qui se fait accompagner pour la modélisation, pour la mise en œuvre et pour le développement de cette infrastructure.
Ça part du local, ça part du terrain, le territoire qui exprime ses besoins. Donc, on l'a bien compris, l'important de soutenir ces tiers-lieux qui sont aujourd'hui, à travers, vous l'avez bien dit, ceux qui les investissent, et les acteurs en matière de transition écologique, économique, culturelle, sociale. Merci beaucoup Patrick Lévivette. Je rappelle que vous êtes président de l'association France Tiers-Lieux. Merci.
Merci.
Et je vous souhaite un bon week-end.
Merci, vous aussi. Au revoir.
Au revoir. Allez, on va se quitter un court instant et on se retrouve juste après avec une autre opération. Alors, on est vraiment dans un secteur très différent, mais une opération très importante, vous le savez. Tous les 1er octobre commence la campagne de lutte contre le cancer du sein organisée par l'association Ruban Rose. À tout de suite, on parlera de l'opération Bonero.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. On va changer complètement de sujet. Chaque année, en octobre, vous le savez, la campagne de lutte contre le cancer du sein est organisée par l'association Ruban Rose. Je vous propose de découvrir tout de suite l'opération Bonnet Rose.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Et nous sommes en ligne avec Hugo du Bonnet Français. Bonjour Hugo.
Bonjour Nathalie.
Alors chaque année, c'est vrai, on le sait, en octobre, le 1er octobre, c'est le début de la campagne de lutte contre le cancer du sein avec l'association Ruban Rose qui lutte, pas que le 1er octobre, toute l'année, mais c'est vrai que le 1er octobre, c'est devenu vraiment le symbole de ce combat. Et alors vous, Hugo, donc au Bonnet Français, vous avez décidé cette année de les accompagner, d'aider justement à la recherche sur le cancer du sein. Expliquez-nous de quelle façon ?
Eh bien effectivement, ça fait 5 ans qu'on a lancé le Bonnet Français, depuis 2016, et après avoir vécu déjà une belle aventure depuis 5 ans, on a voulu rendre un peu de ce qu'on avait reçu pendant toutes ces belles années, et on a eu l'idée de créer l'opération Bonnet Rose pour Octobre Rose 2021, et en fait l'idée est toute simple, c'est de créer le premier bonnet qui va financer et aider la recherche sur le cancer du sein.
Donc on achète ce bonnet et on participe justement à la recherche sur le cancer du sein. Donc vous allez lancer une campagne sur Ulule.
Oui, alors elle n'est pas encore lancée, effectivement, puisque le mois d'octobre rose, c'est octobre.
Oui.
On part sur le 1er octobre et elle se finira le 5 novembre. Donc pendant tout ce mois-là, on va vendre un bonnet en édition limitée, puisque c'est une collection vraiment spéciale qu'on a développée pour l'opération. Et donc c'est un bonnet qu'on vend 35€, sur lequel on reverse 10€ directement à l'association Ruban Rose, qui finance donc la recherche sur le cancer du sein.
On voulait en parler, c'est vraiment une très très belle initiative. Alors justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ce mouvement ? Vous vous êtes dit qu'il y avait la possibilité d'aider la recherche, surtout qu'il n'y avait pas finalement encore de produits, de campagnes autour d'un symbole pour aider justement cette association Ruban Rose.
Alors c'est vrai que le bonnet, oui, c'est quelque chose d'accessible.
Il y a le ruban déjà, qu'on connaît bien, que tout le monde porte, c'est vrai.
Bien sûr, et alors l'idée là, c'est vraiment de sensibiliser les gens qui n'ont pas forcément la spontanéité de donner, sans forcément avoir quelque chose en retour. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas spontanément, et donc on s'est dit qu'avec ça, ils auraient quelque chose, un produit en retour. Et ils financent à hauteur de 10€. Donc nous, c'est un produit sur lequel on ne fait aucun bénéfice et on reverse l'intégralité des bénéfices à cette association.
Oui, c'est porté utile, quoi. C'est-à-dire qu'on porte un beau bonnet à la couleur, j'imagine, rose. Et la contrepartie, c'est qu'on aide vraiment cette association qui a besoin de fonds pour lutter contre le cancer du sein, en informant, en dialoguant, en mobilisant. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, le Bonnet Français, c'est du Made in France, là aussi. C'est important de le rappeler. C'est entièrement fait en France.
Cette opération Bonnet Rose, on a voulu continuer de fabriquer en France ce bonnet en particulier, comme tous nos autres bonnets. Et donc on s'est associé avec la maison Bonnefoy qui fabrique nos bonnets déjà depuis 5 ans pour créer ce bonnet exclusif. Alors c'est vrai que moi je suis très sensible parce que ben, dans ma famille et dans mon entourage, on connaît tous des personnes qui malheureusement ont été touchées par,
un cancer
ou particulièrement par le cancer du sein. Et je me suis demandé ben, comment à notre niveau on pouvait aider la cause. Quoi.
C'est la première fois que le bonnet français se lance comme ça dans une campagne aussi importante.
Alors, de cette envergure, je pense que oui. Là, on est à notre deuxième campagne de crowdfunding. L'an dernier, on a lancé une gamme recyclée, entièrement recyclée et toujours faite en France. Et c'est vrai que cette année, on voulait frapper fort avec cette reprise un petit peu de l'économie et aussi du monde d'avant, si on peut dire.
Oui.
Et donc voilà, on sait que pendant cette période, les gens étaient moins sensibilisés aux dons. Donc avec ce produit-là, on espère vraiment, vraiment faire un succès, quoi.
Je rappelle que le bonnet français, c'est vrai, vous avez eu très tôt cette volonté de faire revivre justement ce savoir-faire hein, dans la région, en faisant appel aux forces vives sur place. Hein. C'est vraiment, moi, je suis toujours impressionnée par cette démarche justement de jeunes entrepreneurs comme vous, hein, Hugo Camusso, d'avoir cette envie de défendre ce savoir-faire français, défendre aussi l'emploi local.
Ah ben c'est primordial aujourd'hui de faire fabriquer en France quand on le peut, sachant qu'on a vraiment des savoir-faire extraordinaires dans plein de domaines et malheureusement ils sont pas souvent ou pas assez mis en avant. On a un dumping social énorme de la part des pays, même des fois inter-Europe, quoi, des pays au sein même de l'Europe. Et donc on serait tenté par facilité d'aller produire ailleurs pour des raisons de coût tout simplement, mais c'est se fourvoyer parce qu'au final on n'a pas la main mise sur la qualité, la réactivité. Aujourd'hui ce bonnet on l'a développé sur un coup de tête, ça fait 3 mois qu'on est dessus et on a réussi à faire un vrai projet en 3 mois grâce à notre fabricant, à UUL et bien sûr à l'association Bonnet Ruban Rose qui nous soutient sur ce projet. Quoi.
C'est une très très belle initiative. Hein. Vraiment, j'invite nos auditeurs à aller sur UUL une fois que la campagne sera lancée et pour ceux qui pour ceux qui vous écoutent, ils vous ont peut-être connu aussi avec la création du gang des grands-mères, parce qu'à l'époque vous aviez réuni des mamies pour travailler justement sur les bonnets. Il y a toujours cette envie de faire en sorte de faire travailler les personnes sur place un maximum. De créer un maximum d'emplois locaux. Merci beaucoup, Hugo.
Merci.
Bravo pour cette initiative, l'opération Bonnet Rose, et j'espère que vous serez nombreux à les soutenir. Merci, Hugo, et je vous souhaite un très, très bon dimanche.
Moi aussi, au revoir.
Au revoir.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Et oui, il est temps de retrouver Thibaut, notre French Trotter. Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors Thibaut, avec vous c'est bien parce que certains vont encore être en vacances. Et je pense notamment à tous ceux qui partent à contre-courant. Une fois la rentrée, il y a ceux qui ont le temps libéré, sans enfants, il n'y a pas la scolarité à gérer, et on part en vacances. Et là, vous allez justement nous emmener faire une balade en train, c'est bien ça?
Exactement Nathalie, car parmi les activités que les Français ont appréciées cet été, il y a le tourisme ferroviaire. Vous savez, ces fameux trains touristiques qui redonnent vie à des lignes de chemin de fer abandonnées. Vous en connaissez certainement.
Oui, il y en a une centaine en France, je crois.
Oui, c'est ça, il y a une centaine qui attire près de 4 millions de passagers. Ça fait à peu près 1200 km de voies ferrées. Et je suis allé dans le Lot-et-Garonne, où justement, des passionnés ont fait renaître une ligne que je vous propose de découvrir.
Voilà, j'entends le petit train arriver. On va faire connaissance avec les personnes qui l'exploitent. Donc, je suis avec Xavier Passini, qui va se présenter lui-même.
Oui, bonjour. Donc, Xavier Passini, je suis président de l'association CFTPA, Chemin de fer touristique du Pays de l'Albret.
Moi, j'aimerais en savoir plus sur l'histoire de ce chemin de fer touristique. Il a combien d'années?
Alors, c'est une longue histoire parce que, en fait, ce chemin de fer touristique a déjà été créé en 2004 par un passionné de chemin de fer qui a finalement cessé son activité en 2012. Et nous avons repris la suite, si on peut dire ça comme ça, en 2014, donc 2 ans plus tard, mais avec une autre association. En fait.
Quelles sont les difficultés quand on reprend une activité comme ça? Je pense que c'est soumis à un nombre d'autorisations assez particulier, c'est ça?
Alors oui, tout à fait. Les difficultés sont multiples, puisqu'elles sont de tous ordres, hein, administratives, techniques. Effectivement, il y a le problème des autorisations, il faut faire tout un dossier. qui doit être agréé par les services de la préfecture et les services aussi du ministère des Transports.
Sachant que la voie ferrée appartient au réseau ferré de France ?
Absolument. La voie ferrée appartient donc toujours à SNCF Réseau, oui. Et on est autorisé à fonctionner sous forme de train touristique, mais enfin avec quand même toutes les obligations qui découle d'une exploitation ferroviaire.
Qu'est-ce que vous donnez envie, vous ? Est-ce que vous venez de l'univers du rail ?
Oui, alors on peut le dire comme ça. Alors pas professionnellement, parce que je n'ai jamais travaillé à la SNCF, je n'ai jamais été cheminot, même si j'ai failli l'être. Mais bon, par contre, je suis, depuis mon plus jeune âge, depuis l'âge de 5 ans à peu près, je suis un passionné de train et j'ai évolué dans les milieux ferroviaires divers et variés, dont bien sûr à la grande maison, la SNCF, tant qu'amateur.
Et pourquoi ce train-ci ? Vous êtes de la région ?
Non, puisqu'avant j'étais dans le sud-est de la France. En fait, on a, à une certaine époque, on a exploité un train touristique aussi en Provence, du côté de Château-Renard. Et on a dû finalement arrêter au bout de 7 ans pour des raisons un peu compliquées, parce que en fait, le département voulait reprendre sa ligne pour un autre usage que celui d'un train touristique. Donc nous avons dû déménager et nous étions à la recherche d'une ligne qui se prêtait à une exploitation de train touristique et quand on a découvert que celle-ci était libre.
On va parler plus spécifiquement de cette ligne. Donc ce train, il exploite un tronçon entre Nérac et Mézin, c'est ça, une quinzaine de kilomètres ?
Oui, tout à fait, donc 14,5 km exactement. Et c'est un tronçon Nérac-Mézin qui fait partie de l'ancienne ligne de Nérac à Mont-de-Marsan. Qui faisait 94 km de longueur. Et donc tout le reste de la voie au-delà de Mézin, donc au-delà des 14 premiers kilomètres, a été malheureusement déferré.
Déferré, d'accord. Donc, et depuis combien de temps elle n'avait pas connu de voyageurs, cette ligne ?
Alors ça remonte à loin quand même, hein, parce que ça remonte, c'est en 1930. Alors en 1939, il y a eu une première interruption, mais le service voyageurs a repris après. Et en fait, début des années 63, je crois, 63 ou 64.
Grâce à la magie des trains touristiques, ça y est, de nouveau, des voyageurs circulent sur cette ligne.
Tout à fait, c'est reparti.
Pour le grand plaisir des passionnés de train et des touristes que je vois ici nombreux aujourd'hui à Mézin.
Oui, alors je l'espère, hein. En tout cas c'est notre but, hein, justement, c'est d'essayer de, à la fois de sauvegarder un patrimoine, et puis ensuite, bien sûr, c'est pour la satisfaction de nos voyageurs, enfin du moins on l'espère. C'est un retour aux sources quand même quelque part. Donc le voyage à l'ancienne, par opposition au TGV, là c'est le voyage à très petite vitesse, mais à l'ancienne.
Merci Thibault. Et comme Xavier a l'air d'avoir beaucoup de choses à nous raconter, je vous propose qu'on le retrouve la semaine prochaine.
Bah exactement.
Pour un nouveau voyage
à très petite vitesse.
Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et d'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, pour les retardataires ou les nostalgiques de cette émission, vous pouvez bien évidemment la retrouver en podcast sur sudradio.fr. Allez, bon dimanche.